lancer dans cette campagne-là pour aller chercher un montant important auprès directement de donateurs. Donc, c'est les avenues qu'on a préconisées dans le printemps, question financement. Et l'autre partie, c'était de voir, en fin de compte, jusqu'à quel niveau on pouvait se rendre à financer par l'utilisateur payeur, en fin de compte, la portée des rénovations. C'est ça, exactement.
Là, vous avez envoyé à un moment donné un communiqué à l'automne, pour vous, du moins votre service, là, un communiqué lors du l'été 99. Là. Vous annoncez dans ce communiqué-là que les rénovations qui vont débuter en mai 2000. Alors, quel était l'état à ce moment-là des projets relativement aux rénovations? C'est une date précise.
Là, ce qui est arrivé, en fin de compte, c'est que du côté de l'université, pour question de la subvention qu'on demandait dans le fond de la campagne, ça s'est avéré négatif, on ne pouvait pas avoir de financement. Donc, c'était assez clair qu'il fallait qu'on finance la totalité du projet. Donc, fixer le montant...
Sur quand, ça?
On a su dans le printemps de 99.
D'accord.
Et quand on s'est aperçu, en fin de compte, on a regardé avec la direction qu'est-ce qui était potentiellement acceptable, et la direction nous a dit, écoutez, dans un projet comme ça, on est sensible à la partie d'utilité physique. L'aménagement fonctionnel, on comprend que dans une automobile, si tu changes le moteur pour l'utilisateur payeur, il ne voit pas vraiment le changement. Si tu changes son siège et tout, possiblement que tu vois plus la portée, en fin de compte, de la rénovation. Et dans cette perspective-là, comme on a vu que la direction était en accord à aller de l'avant avec un projet d'autour de 12 millions de dollars, ce qui était fixé à ce moment-là, on a dit, là ça commence à être très sérieux, et on a demandé en fin de compte à rencontrer l'association des étudiants résidents qui se trouve à Aix-les-Arcombe. On est
vous dites juste là, parce que là, il faut laisser le temps à M. Richard de prendre des notes, là. Beaucoup de choses, ça, c'est important. Mais rendu au mois de juin 1999, vous avez rencontré la commune, vous avez parlé de discussions qui ont lieu avec la direction. La direction, on s'entend, c'est de la direction de l'Université de Montréal.
La direction de l'Université de Montréal.
C'était votre interlocuteur au niveau de la direction de l'Université de Montréal. Fait que vous avez eu ces discussions-là au cours du printemps 1999.
En fait, il y avait deux personnes qui intervenaient. Il y avait le vice-recteur adjoint, M. Jean Gravel, et il y avait aussi M. Trahan, qui se trouve être vice-recteur exécutif. Le projet, dans son ensemble, si je regarde la partie d'utilité physique, la demande avait émané du vice-recteur aux affaires exécutives, donc il était au courant, en fin de compte, là, que du côté des résidences, on avait à faire une mise à niveau majeure du côté de l'utilité physique.
Ça, c'est où on mettait,
c'est M. Trahan.
Alors lui, il vous a donné le hockey contre des travaux au niveau des travaux extérieurs. En même temps, qu'est-ce que vous avez donc mis en place d'autres types de rénovations? Vous avez amorcé la discussion, là, vous aviez une enveloppe de 12 millions. Là. C'est dit par qui, ça?
OK. Le seul élément, quand je dis à M. Trahan, c'est que même avant, il y avait eu des discussions avec le vice-recteur à l'administration, qui était M. Molinet. On avait au préalable commencé les premières discussions avec lui. Est-ce que vous pouvez me répéter la question?
Donc la question, c'est que là, il y a les rénovations, je peux comprendre, au niveau du vice-rectorat, il n'y avait pas de problème au niveau des rénovations sur l'enveloppe extérieure. Là. Mais en même temps, vous m'avez dit qu'il y avait la question de la rénovation intérieure là, aussi. Ça a été, vous en avez finalement fait les deux en même temps, vous avez profité pour les deux en même temps. Ça, est-ce que c'était discuté dans la même zone, dans la même période de temps avec le vice-rectorat?
Oui, ça a été discuté parce que quand on a donné le mandat, si vous voulez, à la firme d'architectes, pour donner le mandat, il y avait eu des discussions entre la direction des immeubles et le vice-rectorat.
Et ça concernait donc la rénovation interne et externe.
Interne et externe. Mais on est toujours, si vous voulez, à faire une évaluation de budget. Là.
Et on vous avait donné un budget, donc, de quelle nature, quel montant?
C'était 12 millions, parce que les premières évaluations, puis je m'excuse du thème rough, là, c'était de façon rough, là, on dit ce projet-là peut coûter 10, 12, 15, 16 millions. Et par la suite, tu mandates une firme d'architectes, ils t'amènent dans le fond d'autres évaluations budget qui ne sont pas nécessairement les évaluations qui vont sortir suite à des propositions, des estimations, si vous voulez, des firmes. Mais tu commences avec une première étape. La première étape, c'est de se dire, c'est quoi notre limite? Notre limite, c'est de 12 millions.
Alors, ce communiqué-là, ça amène, je crois qu'on prend une rencontre avec les représentants de l'ERCO. Cette rencontre-là, est-ce que vous avez participé?
Oui, c'est moi qui l'ai initiée.
C'était à quel moment?
C'était le 7 juillet de 1999.
Qui était présent cette rencontre pour l'administration, outre vous-même?
Ok, il y avait Mme Mécaille qui était avec moi.
Et vous avez rencontré qui de l'ERCO?
Il y avait le président, M. Goulin. Et je ne connais pas les noms des personnes qui étaient avec lui, c'est les personnes du conseil d'administration.
Il y en avait combien avec lui?
De mémoire, il y avait 6 personnes.
Et de quoi a-t-il été question lors de cette rencontre, Mathieu?
En fait, on voulait leur annoncer qu'on s'en allait vers des rénovations, que c'était très concret dans le sens qu'il y avait déjà, la direction de l'université s'était déjà prononcée dans le fond sur un budget de plus ou moins 12 millions. Que les travaux, bien qu'on n'avait pas parlé aux contracteurs et que dans le fond il n'y avait pas d'entrepreneur général qui était sur le projet encore, qu'on avait des discussions sur la portée des travaux, et la portée semblait être assez claire en fin de compte jusqu'à un certain point, dans le sens que ça ne pouvait pas se faire dans une année. C'était à ce moment-là, la prétention qu'on avait, c'était un projet qui aurait dû être en 3 ou 4 étapes. Et le projet, une chose était claire par contre, c'est que le projet débuterait avec la venue de mai 2000. Et ce qui était le plus difficile, c'est-tu 3, c'est-tu 4 étapes, on ne savait pas exactement.
Puis quelle était la position de vos interlocuteurs au mois de juillet lorsque vous leur avez présenté le projet de rénovation, ce qui est indiqué ici? Cette rencontre a suivi cet avis, cette note?
Oui, exactement. C'est que quand on les a rencontrés, on les a dit, écoutez bien, on va procéder de cette façon-là tout au long du processus. Quand on va vous rencontrer, on vous dit que simultanément, on va faire partir un document d'information qui est au bénéfice des étudiants qui ne font pas partie de l'association des étudiants des résidences. Et donc, on voulait, dans le fond, informer toute la population, autant les étudiants qui étaient les résidents, dans le fond, qui faisaient partie de l'association, et autant ceux qui n'en faisaient pas partie.
Ça s'envoyait à tout le monde.
Ça s'envoyait à tout le monde. Et on voulait aussi leur dire un peu comment est-ce qu'on avait l'intention de procéder, qu'on fonctionnerait, dans le fond, par communiqué, qu'au fur et à mesure que ça serait connu, tant qu'aux éclaircissements, que ce soit la portée des travaux, que ça soit sur la tarification, parce que c'est des éléments qui ont ressorti assez vite. Combien est-ce que ça va coûter? Est-ce que, dans le fond, est-ce que vous allez être capable de le financer avec le budget? La réponse était claire. Comme on faisait que s'autofinancer, en fait, on n'avait pas d'argent, si vous voulez, en réserve suffisante pour initier un projet comme ça. Il y avait une réserve. On nous avait fait part du montant qu'il y avait dans la réserve à ce moment-là. D'ailleurs, à chaque année de mémoire, là, depuis 1997, en tout cas à tout le moins, on leur donnait un état de la réserve. La réserve, en fait, c'est que...
Ça sert à quoi, la réserve?
La réserve, on a des revenus, on a des dépenses, et normalement, ça faisait un surplus. Et le surplus, en fin de compte, on le plaçait dans une réserve et on se disait, si une année, on a un problème important, entre autres, on avait sélectionné sur la tour Thérèse Cardin que le système de chauffage devait changer, 3 étages par 3 étages. Donc, déjà là, on avait puisé à travers la réserve pour aller chercher les montants pour défrayer ça.
Pour les imprévus.
Les imprévus, on peut avoir un chauffe-eau dans dans un bungalow, on sait que c'est pas trop important, mais un chauffe-eau dans une résidence, ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars, de sorte que si t'as pas de réserve, tu as toujours pris devant un fait où est-ce que tu es obligé d'emprunter à chaque fois que tu as une intervention suffisamment importante.
Mais je crois qu'on vend la réserve, là, il était hors de question, à même la réserve de payer les rénovations.
De toute évidence, il était clair à ce moment-là que ça nécessiterait, dans le fond, une augmentation de loyer. Et il y a eu du questionnement du côté, en fin de compte, justement, là, des coûts potentiels.
Et on connaît les préoccupations, justement, de vos interlocuteurs qui se présentent avec vous lors de la réunion. Vous présentez, bon, votre J'imagine les rénovations qui vont s'en venir vont nécessiter, j'imagine. Quelle est la réaction des représentants qui sont sur place là, qui écoutent tout ça? Là?
Il faut dire que c'est une première rencontre. L'information, dans le fond, était contenue dans le document approuvé ici. Il n'avait pas reçu au préalable. De sorte que la préoccupation, c'est quand on a mentionné que dans le document qu'on était pour déposer, qu'on était en train de regarder une avenue pour amener des cuisines. Ça, ça a été le gros point où est-ce que...
Ouais, c'est quoi l'intention de l'université de vous annoncer au niveau des cuisines?
Ben, en soi, pour nous, du côté d'amener des cuisines, c'était une orientation qui faciliterait, dans le fond, la vie en résidence. On sait que dans le cas, si vous voulez, d'un étudiant qui résidait, un premier coût qui est élevé, c'est le loyer. Un deuxième coût qui est élevé, c'est se nourrir. Et dans cette perspective-là, en fait, nous, d'amener des facilités pour que les gens puissent concevoir eux-mêmes leur repas, c'était une avenue qui était, d'après nous, très, très, très intéressante, d'autant plus que les sondages qu'on avait faits aux populations qui n'étaient pas résidentes de l'université, mais qui résidaient à proximité de l'université, en fait, étaient à l'effet qu'on n'a pas de résidence, on n'a pas de cuisine pour se faire à manger. Et,
oui, excusez-moi si vous n'avez pas fini.
Et dans cette perspective-là, pour nous, c'était une bonne avenue que d'offrir, en fin de compte, des facilités pour les cuisines.
Ce qui a été discuté, la rénovation de salle de bain,
c'était mentionné que, dans le fond, ce qu'on voulait faire, on voulait repeindre les aires communes, on voulait changer tout le mobilier, autant des aires communes que des chambres, qu'on voulait repeindre toutes les chambres, qu'on voulait augmenter, sinon doubler la capacité des salles de bain du côté des tours S et Ouest pour les amener au niveau de 1.5, qu'il y aurait des cuisines. Les cuisines, c'était moins clair parce que dans le fond, ce qu'on est en train de regarder, c'était trois options, ou bien de faire des cuisines à chaque étage, ou de faire des cuisines aux basilières des bâtiments, ou bien de faire une cuisine centrale, ce qui est la pratique présentement à l'Université Laval à Québec. Et on a invité, en fait, le conseil de l'ERCOM à s'enquérir, si vous voulez, des informations auprès des collègues, des étudiants de d'autres universités, pour voir, parce que ça, c'était déjà, à prime abord, très mal perçu. Je pense...
Qu'est-ce que vous dites qui était mal perçu?
C'était mal perçu qu'on oriente vers amener des facilités de cuisine. Je pense qu'il y avait une phrase dans le texte qui disait, dans le fond, qu'on avait l'intention de se servir du café étudiant, et ça a été très décrié, alors que dans le fond, le projet qu'on faisait, c'est que la salle de cuisine était à l'intérieur du café étudiant, le comptoir, parce que l'association des étudiants, si vous voulez, gère un point de vente qui se trouve à servir pour les liqueurs, pour des sandwichs et des éléments comme
le café étudiant.
Le café étudiant
de maintenir.
C'était la préoccupation.
C'est ça. Et quelle a été, bon, suite à cette rencontre-là qui a duré sommairement combien de temps, cette discussion, cette amorce de discussion?
D'après moi, ça doit durer une heure et demie, deux heures.
Alors là, c'était le 7 juillet, est-ce qu'il y a eu du suivi relativement aux rénovations de votre connaissance personnelle?
En fait, pour comprendre, on est en juillet. Ce que la Cour nous avait dit à ce moment-là, c'est que nos membres vont être ici plus en septembre. De notre côté, nous, on regardait dans le fond des options pour les cuisines. On a vu, entre autres, qu'il y avait des inquiétudes de ce côté-là. Et ce qu'on avait convenu ensemble, c'était de se revoir en début d'automne, où est-ce que dans le fond, on pourrait amener des éléments plus clairs, plus clarifiés. Entre autres, il y avait aussi le souci de la tarification. Donc, c'était des éléments qu'on avait convenu de se rencontrer à l'automne.
Quand vous dites tarification, est-ce que je ne sais pas comment c'est le taux de loyer, le montant du loyer?
L'augmentation du loyer qui aurait été, dans le fond, la résultante de la rénovation.
Donc, vous vous rencontrez de fait en l'automne de 1999?
C'est bien ça.
À quel moment vous vous rencontrez? Quand je dis vous, là, c'est vous, votre
personnalité? Le document que vous avez lu, c'est le 15 octobre de 1999.
Ça, c'est un document que vous référez, c'est un communiqué qui est adressé aux locataires résidents. Ça, c'est donc le 4 deuxième document. Est-ce qu'il y a une rencontre pour... Vous dire qu'il y a une rencontre de 28
ou une rencontre de 28?
Avec qui?
avec la direction de l'ERCO.
Est-ce que vous étiez encore accompagné?
Oui, Mme Macaï, ça c'est la rencontre qui a eu lieu du côté des résidents.
Et cette fois-ci, vous êtes donc... quelles sont les représentations et les échanges qui ont eu lieu à ce moment-là dans la rencontre?
En fait, si on reprendrait les éléments de ce comité-là, c'est des éléments, si vous voulez, là, qui sont ressortis. Entre autres, il y avait des informations qui circulaient, comme de l'humeur, là, que dans le fond, ça amènerait une rénovation, amènerait une augmentation du loyer de 100 $, ce qui était inquiétant tant qu'à nous, parce que dans le fond, on n'avait pas sorti nécessairement de chiffres. Et on voulait clarifier avec la direction d'ERCOM pour rassurer sur la tarification. Il y avait aussi, en fin de compte, un peu plus sur la portée des travaux, mais du côté de l'ERCOM, il y avait des petits questionnements. On voulait les rencontrer pour répondre aux questions en autant qu'on était en mesure de le faire. Et s'il y avait lieu, dans le fond, de voir avec eux là, comment est-ce que on pourrait envisager le tout.
Est-ce qu'il était question de rénovation particulière, de la forme que ça prendrait dans chacune des résidences à ce moment-là?
Ah oui, ça, définitivement, du côté de cette rencontre-là, on a fait part, si vous voulez, qu'on était avec, on avait regardé avec des architectes les possibilités d'aller, entre autres, si je vous parle des cuisines, là, d'aller à évaluer trois options, et on nous a demandé, en fin de compte, si on voulait déposer les documents pour qu'ils puissent les consulter. Et ce qui avait été convenu, en fin de compte, c'est que moi, je ne savais pas si du côté des architectes, le document que j'avais, c'était un document de travail, c'était sous forme de brevet. Et j'avais un peu d'inquiétude à laisser des documents, parce que dans le fond, c'était un projet. Si la portée des travaux et, dans le fond, les évaluations avaient été les évaluations plus avancées, là, j'aurais pas eu d'inquiétude, mais moi, je trouvais ça un peu délicat, mais on a convenu ensemble, en fin de compte, de laisser,
Quand vous êtes ensemble, c'est qui, ça, vous et qui?
Moi, Mme Mécaille, ainsi que la direction de l'ERCO, dont M. Gaudin était toujours président à ce moment-là. Ce qu'on a convenu, en fin de compte, c'était de déposer un document qui était un projet, qui était sous forme 11/17, et qui expliquait, en fin de compte, la portée des cuisines. Qu'il y ait des cuisines au basilaire de chacun des bâtiments, qu'il y ait ses étages, ou qu'il ait, si vous voulez, dans une cuisine regroupée. Il y avait aussi il y avait du questionnement du côté de l'ERCOM sur les augmentations de loyer. Eux auraient souhaité à ce moment-là qu'on s'engage, en fond, à faire en sorte que tous les étudiants reçoivent la même augmentation de loyer. Et on a dû leur expliquer à ce moment-là que dans le cas des augmentations de loyer, c'était pas praticable d'y aller sur l'ensemble, mais qu'on était obligé de tenir compte des rénovations qui étaient pour être faites dans chacun des bâtiments et qui amèneraient, dans le fond, ce qu'on n'avait pas eu jusqu'à ce moment-là, une différenciation, en fait, donc, de la tarification des loyers. Parce qu'il faut comprendre que aller jusqu'à ce moment-là, le loyer, qui était plus ou moins de mémoire de 195 $ autour de ça, était la même tarification dans toutes les bâtiments, dans les quatre résidences, peu importe que une chambre soit un peu plus grande qu'une autre, ou que le salon soit pour plus de personnes ou moins de personnes, qu'il y ait un rapport de 5 salles de une salle de bain pour 5, une salle de bain pour 10, c'était uniforme. Et dans cette perspective-là, dans le fond, on avait déjà, à ce moment-là, une idée, si vous voulez, sur la vétusté physique et sur le réaménagement fonctionnel, et c'était évident que ça passait nécessairement par des investissements différents tout à l'intérieur d'un même projet, mais différents dépendamment de l'état du bâtiment. Il y avait un bâtiment qui demandait de changer de la fenestration, alors que d'autres bâtiments ne le demandaient pas. Et ça faisait en sorte nécessairement que ça amenait une tarification différente.
Ça, vous en avez traité, cette question-là, dans la rencontre du 15 octobre?
On a plus que traité, on a aussi déposé un document lors de cette rencontre-là.
Présente un document que vous reconnaissez,
finalement. Oui, c'est un document que c'est moi qui l'ai conçu.
C'est
Ça, c'est un document qui est présent à la pièce P6. Quand on vous a fourni ce matin l'original, en annexe 5. Annexe 5, service de résidence, financement de rénovation, hypothèse d'un coût fixé à 12 millions. Alors, vous l'avez remis lors de la rencontre du 15 octobre, ce
document-là? Exactement.
Et c'était quoi, en gros, de ce document-là?
En gros, ce document-là, ce qu'il dit, en fait, c'est un investissement de 12 millions. Si on prend à ce moment-là la tarification qui était acceptable du côté de la régie, c'était 4,75 $1,000 en fait, d'investissement, qui amenait un coût moyen là, de 49,70 par mois. Et qui fait supporter que les locataires, on avait dans le fond une période, parce que ce qu'il faut comprendre dans les résidents, dans le fond, c'est qu'on a des revenus de différentes sources. On a plus ou moins 60% de revenus, si vous voulez, de la location en année académique. Et on a un autre 40% qui est des revenus de location en période estivale, qui est l'été, et de d'autres sources de revenus. De sorte que dans le cadre du financement, nécessairement, quand on regarde afin de supporter le coût d'augmentation, ici, on voit que pour l'année académique, on a un bail assez particulier, c'est des baux de 8 mois. Et dans cette perspective-là, dans le fond, on faisait supporter la partie de l'investissement pour les mois académiques, et l'autre partie, nécessairement, au prorata, qui est supportée par la location durant la saison estivale.
En vrai, ici, c'est un petit scénario, là. Je peux comprendre que c'est encore un scénario.
Ah oui, c'est des scénarios, et à ce moment-là, on met en garde, en fin de compte, le danger de divulguer ces documents-là, parce que nécessairement, c'est une forme de projet, et c'est des coûts, dans le fond, estimatifs. De sorte que le 4,75 de la vie d'une année à l'autre, de sorte que c'est assez fluctuatif de véhiculer ces chiffres. Mais on avait quand même, on faisait face à une rumeur où est-ce que c'était 100 $, ça montrait déjà là, que ça ne serait pas 100 $ dans la perspective d'un projet où est-ce qu'on devrait tout financer 12 millions.
Alors, le document résidence prévision de résultats de 99-2000 à 2002-2003, est-ce que ça c'est l'année suivante pour un document P6, est-ce que vous reconnaissez le
document? Oui, je le reconnais, c'est moi qui l'ai constitué.
Alors, ce document-là, vous l'avez remis également dans la rencontre?
Je l'ai remis avec une mention bien spécifique, là, ici, là, de toute reproduction est interdite, parce que, en fait, ce qu'on faisait ici, c'était un projet. Et dans le thème projet, c'est sûr que les revenus sensiblement étaient pour les mêmes, mais du point de vue du remboursement, du point de vue de la réserve, il y avait beaucoup d'éléments inconnus. Et c'était dans la perspective, dans le fond, où est-ce que l'investissement soit fait sur 12 millions, remboursant 25 ans avec un taux d'intérêt de 6%, alors qu'à ce moment-là, on n'a pas sondé, si vous voulez, le terrain du coût de l'argent, parce que le coût de l'argent nécessairement intervient quand tu fais ta demande d'emprunt. Fait qu'on peut le dire à ce moment-là, c'est 6%, mais on sait en économie là, que les fluctuations interviennent, ça peut changer à chaque semaine, ça peut changer à chaque mois, de sorte que de s'avancer dans un processus sur un pourcentage et de se fixer là-dessus, c'est une partie là, c'est de la boule de cristal.
Qu'est-ce que vous avez dit en mettant ce document-là, en présentant le coût?
Ben, j'ai dit, en fin de compte, qu'on était d'accord à déposer des documents, en autant que ce document-là, dans le fond, resterait entre nous, que dans la perspective, c'était la perspective, en fond, pour les trois documents, parce que du côté du projet des architectes, j'avais vérifié au point de vue de la firme d'architectes, eux,
vous parlez de trois documents. De quels trois documents vous parlez? Ce document-là, c'est le premier.
C'est ça.
C'est le document préalable.
Ça, c'est le deuxième. Il y avait un troisième document qui était sous forme 11/17, qui était, en fin de compte, une idée assez avancée, en fin de compte, du côté du réaménagement fonctionnel et aussi du côté de la vétusité publique.
Oui, cette rencontre-là a duré combien de temps, dans le 15 octobre?
Toute réserve, d'après moi, 1h30, 2h aussi.
Alors, vous laissez là-dessus, là, quelle est l'étape postérieure à ces, cette rencontre et au communiqué du 15 octobre 1999, c'est mon
travail. En fait, dans le communiqué du 15 octobre, je n'ai pas lu en même temps, mais on parlait, si vous voulez, de l'orientation qu'on prenait, et l'orientation est en effet de faire des focus groups du côté des résidents. Et que, dans le fond, ce qu'on avait l'intention de faire, c'était d'y aller par les représentants des tâches, où est-ce que la direction des résidences les rencontrerait. On voulait avoir, dans le fond, le coup, on voulait informer, dans un premier temps, les étudiants, bien qu'il y avait eu des communiqués. On voulait aussi aller chercher, si vous voulez, les interprétations des gens et ce que les gens avaient comme feedback à ce qu'on avait amené, si vous voulez, là, comme, comme projet.
Alors, vous êtes avec les représentants d'État?
Avec les représentants d'État.
Ça a eu lieu à quelle période?
Ça, ça a eu lieu dans l'automne. Moi, je n'étais pas présent. Je n'ai assisté à aucune de ces rencontres-là. La direction des résidences a organisé les rencontres et les rencontres se sont faites sans que moi j'aie assisté.
On vous a rapporté l'existence des rencontres?
Oui, on m'a rapporté l'existence des rencontres. C'est un nombre impressionnant. Je ne sais pas exactement, mais c'est, il y a eu beaucoup de groupes qui ont été rencontrés.
Ici, on indique dans le communiqué du 15 octobre 1999, on fait en particulier un paragraphe, 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Stéphane, nous croyons qu'il sera plus judicieux de tout consacrer nos efforts dans l'immédiate réalisation de la première phase du projet qui consiste en rénovation du pavillon Thérèse Cassegrain et du pavillon 2442. Donc, c'était pas pour vous à ce moment-là, ce paragraphe-là, si vous savez quoi, on se parle en automne.
C'est parce que là, ça s'est passé un petit peu plus, ça s'est passé plus difficilement parce que dans le fond, la direction de l'ERCOM nous mentionnait dans le fond. Il avait plus connaissance de l'ampleur des travaux. Il se disait content qu'on fasse des rénovations. Il était d'accord, dans le fond, avec le fait qu'on avait des coquilles extérieures à faire une mise à niveau pour des bâtiments de béton, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi, dans le fond, on voulait faire un ajout de salle de bain. Il ne comprenait pas non plus qu'on veuille amener des cuisines dans les résidences. Et ça a été un petit peu plus, un peu moins harmonieux, disons, dans le sens que on a senti une pression du côté de que la COM faisait, en effet qu'il désapprouvait jusqu'à un certain point ce qui était avancé pour ces rénovations-là.
Mais là, quand vous dites qu'il désapprouvait, ça, c'est, est-ce que c'est lors de la rencontre du 15 octobre qu'il y a eu ces représentations-là au Père Coupe ou c'est subséquemment à cette votre rencontre du 15 octobre?
Alors, c'est à cette rencontre-là que je me souviens que la représentation a été faite. Même, je me souviens d'avoir mentionné, j'ai vu que jusqu'à un certain point, ça ne faisait pas leur affaire, en fin de compte, qu'on fasse une cuisine, qu'on amène des nouvelles salles de bain. Et je me souviens très bien d'avoir dit, écoutez bien, je suis bien prête à vous écouter. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans la portée des travaux, le fait d'aller vers des évaluations de coûts pour amener des salles de bain, pour amener des cuisines, nécessairement on va axer dans ce sens-là parce que au-delà de toutes les rénovations, c'est des points qu'on doit tenir compte de la clientèle qui vient pas dans les résidences pour ces raisons-là. Et nous, on doit regarder dans le fond le tableau dans une perspective long terme et ça nous amène nécessairement à évaluer et avoir, dans le fond, ou au moins évaluer ces travaux.
Mais au moment d'automne 1999, étant donné que vous indiquez que les travaux au pavillon Thérèse Cassegrain étaient envisagés, ce serait pour la première fois, vous envisagez de faire des travaux internes autour de Thérèse Cassegrain à l'année 2000?
Oui, mais ça, comme je mentionnais tantôt, dans le fond, lors de la première rencontre, on a déjà ouvert le jeu où est-ce qu'on dit on va rénover, dans le fond, tous les incommuns, toutes les chambres, tout le mobilier va être changé, mais dans toutes les résidences. La perspective qu'on a déjà à l'été de 1999, c'est que on va rénover, le réaménagement fonctionnel va se faire partout. Ce qu'on ne savait pas, c'était, dans le fond, combien d'étapes on était pour le faire. On est ici au mois d'octobre. Ça s'amène un peu plus précis, là, où est-ce qu'on parle ici, tout à fait. Première phase, on dirait qu'on s'est rénové le pavillon terrestre en grain, il est 24-42. C'est que dans le cas de terrestre en grain du 24-42, c'était une logique implacable. On commence à rénover les plus vieilles bâtisses. Bien qu'on était conscients jusqu'à un certain point que dans l'ordonnancement, on aurait pu regarder l'ordonnancement autrement, parce que si on regardait l'état de résidence, en fait, la tour Thérèse Cassegrain, à mon sens, bien qu'elle était construite en 64, le réaménagement fonctionnel était moins... j'essaie de trouver le bon terme, là. Était peut-être moins prioritaire que du côté de la résidence C, là, qui est tour S et Ouest, parce que c'était plus détérioré, dans le fond, dans ces deux tours-là. Mais comme c'était la logique de se dire, on va rénover plus vieux, la moyenne, puis par la suite, bien, on rénovera les plus jeunes, à ce moment-là, c'était le contexte qu'on... on préconisait, puis qu'on pensait, dans le fond, que l'ordonnancement des travaux, ça serait fait comme ça.
Puis quant aux travaux extérieurs, ça allait se faire quand, ça?
Ben là, à l'automne de 99, il nous arrive, dans le fond, un avis assez massu de la direction des résidences. C'est que, à l'automne de 99, comme il avait fait en 98, il avait mandaté une firme de l'extérieur avec des hommes... des hommes araignées pour, dans le fond, revoir l'évaluation. Et ce qui est ressorti, c'est que là, c'est plus là, du moyen terme, là, c'est urgent. Les résidences, la coquille extérieure, il y a des parties, il y a des morceaux, on nous a même amené certaines pièces qui étaient suffisamment grosses pour qu'on se dise que c'est dangereux. À le sens que si ces pièces-là, on n'était pas allé pour les enlever, si ces pièces-là étaient tombées par elles-mêmes, ça aurait été dangereux. Est-ce que, puis là, on est dans l'automne de 99, c'est pas possible de faire les travaux dans l'hiver, et ça, ce qui apparaît, qui ressort flagrant, là, c'est que l'ordonnancement, comme nous, on l'avait prévu, c'est à savoir qu'on ferait une bâtisse, qu'on la fait au complet, et l'intérieur et l'extérieur, ça ne pouvait plus être praticable, parce que les coquilles, nécessairement, devaient se faire à l'été de 2000 en totalité pour toutes les coquilles.
Je vous présente ici un document du de dessinateur, M. Jacques Gravel. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce document-là?
Oui, j'ai eu connaissance de ce document-là.
Est-ce que vous pouvez nous dire
la cour de poésie? En fait, Jean Gravel se trouve être mon supérieur immédiat, à le sens qu'il est vice-recteur adjoint exécutif. Et le rapport ici qui est fait par les bureaux de Yann Maguet et les bureaux d'ingénierie Calculatec et CIMA amène en fin de compte que les groupes de priorité là, de 0 à 1, de 1 à 3 ans et de 3 à 5 ans, les travaux d'affection des murs de béton de Besançon sont classés priorité 2. Son état, si vous voulez ce que je disais tantôt, là, les éléments qui étaient tombés. Et tout à l'interrogation, nous avons demandé que l'inspection soit effectuée sur les conditions de ces murs. Nous avons alors obtenu l'autorisation des responsables de résidence, évidemment, on était d'accord. Le 22 octobre dernier, nous avons obtenu les premiers résultats de cette inspection, donc on est au 22 octobre, qui nous confirmait que les abords du pavillon étaient redevenus sécuritaires. On nous informait aussi que les derniers travaux n'empêchent pas la poursuite de l'érosion, au contraire. À relativement court terme, les réparations nécessaires ne sont pas effectuées du béton tondra à nouveau. Donc, on nous montre ici là, le danger. Et si j'ai bonne mémoire, bien que je ne peux pas parcourir là, tout le document, je pense que le verglas a fait en sorte que, on s'appelle le verglas qu'on a eu en janvier de
1998.
La prétention que ce document-là a, c'est qu'il y a eu une détérioration plus marquée, et c'est ce qui a amené, dans le fond, les spécialistes de Calculatec de nous dire, écoutez bien, là, c'est plus du moyen terme, là, c'est du court terme. Et le directeur, étant donné la situation, nous recommandons, pour des questions de sécurité, Il y a des travaux correctifs du béton de l'enveloppe extérieure des résidences C ainsi que de celle du pavillon Thérèse-Casgrain soient entrepris dès l'été prochain. De sorte que ici, on met en cause la sécurité. Et ça, sous aucun aspect, autant la direction des résidences, autant la direction des services auxiliaires étaient prêtes à prendre des risques induits. Les travaux, de toute évidence, à ce moment-là, s'alignaient pour s'effectuer du côté de l'été 2000. Ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, par contre, c'était comment c'était pour être abordé simultanément autant, parce que ici, quand on dit l'enveloppe extérieure, le Thérèse Casgrain et résidentiel, on vient de parler, en fin de compte, là, de trois quarts des immeubles qui constituent des résidences. C'est un pourcentage plus que marqué. On parle de 800 résidents tout ouest pour ouest. On parle du côté de Thérèse Casgrain, plus ou moins 170. Donc, on parle de 970 étudiants, résidents, chambres visées, dans le fond, par les coquilles extérieures.
Ça va être les 29.
Moi, je m'en ai fait 30, comme ça. Ouais.
Vous avez raison. Ah oui, je suis
là. J'ai
alors, suite à ces communiqués qui nous sont transmis par M. Granel, fait que vous la décision relativement au travail de la coquille extérieure et également s'imposer en mai 2000, qu'est-ce qui a été le suivi de votre dossier dans ce dossier-là?
En fait, c'est qu'un processus s'est enclenché avec la direction des immeubles et la direction de l'université, à savoir, à partir des éléments connus, autant de l'utilité physique que de l'aménagement fonctionnel, comment on était pour aborder ce projet-là en termes de construction. Il y avait, si vous voulez, bien des éléments qui étaient mis en lumière. Nous, l'importance, puis ça, on a autant Mme Mercaille, autant moi-même, une grosse préoccupation, c'était de financer ce projet-là. L'université nous disait qu'en bout de ligne, on n'aurait pas, dans le fond, de subvention pour le faire. Il fallait financer ce projet-là. On avait d'un côté l'Association des étudiants résidents qui faisait par tous les moyens, puis je les comprends, en sorte de dire, bien, écoutez bien, il faut que ça soit raisonnable, des augmentations. Si c'était des augmentations de l'ordre de 100$, les étudiants n'y arriveraient pas. On avait aussi la partie de la CUM qui nous disait, bien, écoutez bien, le fait qu'il y ait une fluctuation des coûts des loyers, eux voyaient ça de très mauvaise façon, dans le sens que quand je parle de fluctuation par bâtiment. Et nous, on a aussi à s'engager pour faire en sorte de le financer. Donc, on avait la responsabilité de regarder, s'assurer que les résidences, une fois rénovées, il faut qu'ils soient louables, dans le sens que si le montant serait tellement élevé qu'on n'arrive pas à les louer, nous aussi, on a un problème majeur. De sorte qu'on avait regardé, dans le fond, les perspectives. Il y a d'autres universités qui ont attendu plus tardivement que nous, en fin de compte, pour rénover certaines bâtisses. Et là, tu te réveilles que de 100% de location, tu tombes à 90%, à 80%. Puis là, tu as moins de financement, tu n'arrives même pas à gérer, dans le fond, tes dépenses courantes. Puis là, il faut t'entendre un processus de sorte que on pense, puis je suis encore convaincu que c'était la meilleure avenue que de faire en sorte de se servir, dans le fond, de la période de rénovation des coquilles extérieures pour aussi rénover, parce que dans le fond,
pourquoi
je pense ça, je l'ai toujours pensé, c'est que c'est un peu l'exemple de tantôt que je disais, dans le fond, si dans un automobile tu changes le moteur et ça fait en sorte que le propriétaire est obligé de sortir 1000$, il ne voit pas vraiment qu'est-ce qui a été changé dans la voiture, alors que si tu changes l'environnement, puis dans le cas de nos chambres, moi je me disais, si j'étais étudiant, je suis dans ma chambre, on me dit que je suis obligé de subir une augmentation de 35$ par mois parce qu'on a changé le chauffe-eau, parce qu'on a changé le chauffage. Moi, je me disais, si les uns comme eux, les chambres sont rénovées, tant qu'à moi, c'est plus acceptable. Et c'est, en plus, il fallait dire que l'âge des bâtiments militait en faveur, dans le fond, d'une rénovation. On va s'en aller. On a tous, chacun, un appartement ou une maison, une salle de bain, on sait, 30-40 ans, c'est une salle de bain, c'est réaliste de penser qu'on ne va pas jamais la rénover. on était dans une condition où est-ce qu'on avait, entre autres, du côté de l'ERCOM et de l'ancien président, M. Gournay, de la représentation, à l'effet que dans certaines salles de bain, ça n'avait pas l'air nécessairement propre pour l'année, je me souviens qu'il y avait eu des discussions à ce sujet-là. Puis, quand je suis rendu à faire le ménage dans tes salles de bain deux fois par jour, et quand on l'a, on ne peut pas dire que ça avait l'air si propre, c'est pas parce que c'est pas propre, mais c'est parce que le revêtement, c'est que la condition a besoin d'être changée.
Mais je comprends que les résidences étaient encore en pleine occupation, il y avait encore 100% d'occupation.
Ben, ça, nécessairement, oui, on était encore à 100%. La seule chose, c'est que par le passé, on avait des listes d'attente. Puis les listes d'attente, c'est que la façon que ça fonctionne, c'est que nécessairement, nous, c'est toute l'année académique que les locations, d'ailleurs, les baux, le monde, c'est des baux de 8 mois. Donc, dans cette perspective-là, un étudiant qui s'en vient chez nous fait sa demande. Et les demandes sont traitées au cours de l'été. Et normalement, on faisait plus que le plein, on était à 100%, puis là, on était obligé, dans le fond, de refuser 200, 250. Et là, plus les années avançaient, puis moins notre réserve était grosse, on était rendu à 100, 125, 150 étudiants.
Les listes d'attente étaient plus grandes.
Il diminuait.
Est-ce que vous avez pour l'enfant?
Pardon?
Vous avez sûrement pour l'enfant. Si je vois l'évolution de...
Oui, on est rendu en l'an 2000.
Là. Et vous en avez pour une heure encore?
Bon, au maximum, une heure. Au moins une demi-heure, je ne sais pas, entre une demi-heure et une heure. Facilement, je pense, oui, au moins une heure.